Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet.
Bonjour, j'espère que vous n'avez pas eu de mal à atteindre la salle, parce que moi j'en ai eu un peu là, en traversant le chantier. Alors, à propos du chantier, on m'a annoncé que, et on me demande de vous annoncer, que sans doute les deux derniers cours, c'est la semaine prochaine et celle d'après, auront lieu dans l'amphi Alpvax. Que ceux qui venaient à mon cours autrefois ont bien connu, parce que cet amphi va sans doute va pas pouvoir être praticable sans doute à cause des nuisances sonores induites par la préparation de l'exposition sur la préhistoire, à laquelle d'ailleurs je vous invite tous à aller. Bien. Alors, nous reprenons aujourd'hui la question. Donc, des rapports entre l'Iran sassanide et l'Asie centrale. On avait étudié en détail ce qui se passait au IIe et surtout au IIIe siècle, donc époque marquée, disons, par un impérialisme très actif du côté iranien. Alors, au siècle suivant, le IVe siècle, l'action sassanide reste offensive. Mais dans le siècle suivant, la balance va un peu s'inverser et l'action sassanide va devenir surtout préventive, puis défensive, aboutissant en fait à la construction, enfin qui ne s'était pas vu, quelque chose qui ne s'était pas vu auparavant, c'est-à-dire la construction d'un gigantesque mur de défense frontalier à l'est de la Caspienne que nous examinerons. Alors c'est un peu... C'est la même évolution en fait qui s'est produite à Rome face à la pression barbare, sauf que là, l'investissement dans les grands murs défensifs a été plus tôt. Le limès germanique, premier, deuxième siècle, et puis le limès, le mur d'Adrien, etc., au deuxième siècle. Fin deuxième siècle, la fortification, la ligne de poste défensif le long de la Mésopotamie. L'Iran a pris le même modèle, mais avec un certain décalage. Alors, toutes ces phases, en fait, soit offensives, soit défensives, n'ont jamais vraiment empêché les transferts culturels qui majoritairement se sont exercés de l'ouest vers l'est. Transferts culturels de l'ouest vers l'est, tandis que les transferts de populations guerrières se faisaient en fait dans les deux sens. J'ai commencé à en parler la semaine dernière. Alors reprenons en détail. IVe siècle. Alors, le IVe siècle, enfin, c'est très simple, le IVe siècle est marqué principalement par un seul souverain, qui est Shapur II, 309-379, dont le règne a été exceptionnel à tous les égards. Bon. On peut le considérer comme le troisième fondateur de la dynastie, après le Ardashir Ier, puis Shapur Ier, dont il est l'arrière-petit-fils. Alors, vous voyez qu'il a eu un règne très long, de 309 à 379. Et ce règne, en fait, correspond à sa vie. Son règne, donc, 70 ans, c'est à peu près autant que Louis XIV, Victoria ou Élisabeth II. Mais lui, contrairement à eux, il a été proclamé, il a été couronné dans le ventre de sa mère. Donc, il est roi dès le moment où il naît. C'est un fils posthume. Alors, les débuts ont été assez agités, probablement symbolisés par ce plat, dit plat Wyvern, du nom de la collection où il se trouve, que j'ai publié il y a à peu près 2 ans avec Samra Azarnouch. Alors c'est un plat qui est assez à part dans la typologie des plats sassanides. Bon, d'abord, voilà, le roi est juvénile. Il a pas de barbe, ça c'est tout à fait exceptionnel, hein, tout à fait. Non. Donc ça montre vraiment que c'est un adolescent. Il a en fait, bon, nous l'identifions à Shapur II pour diverses raisons, mais il a gardé la couronne de son père, Hormizd II. Et autre caractéristique curieuse, l'animal qu'il chasse, c'est l'autruche. Ça c'est très très rare. C'est d'habitude ce sont des animaux offensifs qui sont chassés. Il y en a un seul autre plat avec un roi sassanide qui chasse l'autruche, c'est Bahram V, et il se trouve que voilà, Bahram V a commencé avant de régner, vécu chez les Arabes. Et en fait, l'autruche symbolise le désert arabique, le désert syrien et le désert arabique. Un souverain qui chasse l'autruche, c'est un signe. Alors, dans le cas de Shapur II, il y a un scénario qui est possible, c'est que son père, Hormis II, semble-t-il, enfin, c'est une seule source qui en parle, serait mort lors d'une attaque de pillards arabes. Il y a une seule source qui en parle, pas les autres, mais on peut comprendre que dans l'historiographie iranienne ultérieure, la mort d'un roi sassanide au combat contre une bande de pillards arabes, c'était pas très glorieux. Et donc, voilà, on a simplement une source qui en parle. Et on sait que les premières guerres de Shapur II ont consisté à venger son père. Et donc, il les a menées contre les Arabes. C'est sans doute ce qu'exprime la symbolique de ce plat. Mais alors, je pense qu'il a, il n'a pas encore eu vraiment sa vraie couronne. Donc, à mon avis, il est mineur. La majorité en Iran, c'était à 15 ans. Donc, ça correspondrait à peu près à 315. Alors, c'est à l'époque de Shapur II. Ensuite, dès qu'il devient majeur, Shapur II s'affirme vraiment très nettement par toutes sortes d'actions militaires sur tous les fronts et également une vigoureuse action de reprise en main intérieure. C'est à son époque, en fait, qu'en Iran disparaissent les royautés vassales qui ne subsistent plus qu'aux deux extrémités. En Arménie, mais dans des conditions difficiles, conflictuelles, c'est jamais vraiment acquis. Et puis à l'est, en Bactriane, j'ai évoqué l'établissement au siècle précédent de la dynastie vassale des Kouchano-Sassanides. Et là, on les laisse continuer, mais c'est pas toujours ça. C'est pareil, ça ne se passe pas toujours d'une manière très tranquille. Je vous rappelle que justement pendant la minorité de Shapur II, il semble que le souverain Kouchano-Sassanide s'est pris la grosse tête et s'est proclamé roi des rois des Kouchans, ce qu'aucun n'avait jamais fait. Là, il y a eu une tentative visiblement d'émancipation. Bien. Alors, à partir des années 350, Shapur II intervient personnellement sur le front nord-est. Et c'est sans doute en réponse à une nouvelle vague de pression venant de la steppe. Les grands mouvements de population steppique avaient marqué les 2e, 1er siècle avant notre ère. Ensuite, ça s'était calmé. Ces nomades s'étaient sédentarisés, avaient fondé l'Empire Kouchan, l'Empire Kangkyu, etc. Et même, on les voit réapparaître à partir justement du milieu du 4e siècle, et le nom sous lequel les sources les connaissent, c'est les Kyonites. Alors en fait, Kyonite, c'est un mot adapté à l'iranienne du mot Hun, qui veut dire les Huns. Eh oui, ce sont nos Huns, enfin, les cousins de nos Huns. Alors voilà, nos Huns, les voilà, ils sont en train de partir vers l'ouest. Mais les Kyonites, ce sont en partie, probablement, ils sont en partie issus de la même vague migratoire du première moitié du 4e siècle, partie des montagnes de l'Altaï. Les voilà. Et puis, sans doute, on décèle qu'il y a eu une autre composante qui venait des environs de la mer d'Aral et qu'on peut dire, voilà, Sarmat. Alors les voilà, les Kyonites, et puis finalement, ils vont mettre fin à la royauté Kouchano-Sassanide. Je vais en parler. malgré l'intervention de Shapur II, et puis finalement ils vont déborder jusque dans l'Inde. Ce grand mouvement migratoire qui en fait a été le déclencheur indirect des grandes invasions qui ont atteint l'Empire romain. C'est un scénario en boule de billard. En gros, la migration des Huns venus de l'Altaï a poussé devant elle des peuples germaniques, et voilà, ça met en branle les mouvements des grandes invasions qui vont durer plusieurs siècles. Il se pourrait, alors pourquoi cet ébranlement après des siècles pendant lesquels on n'entend pas trop parler de ce qui sort de ces régions-là? On pense maintenant, vous me direz, c'est très à la mode, à des causes climatiques. Semble un retournement du climat à cette époque qui aurait entraîné un refroidissement dans ces régions altaïques, donc une moindre abondance des pâtures qui aurait obligé ces peuples à aller chercher ailleurs. Alors ce scénario climatique est bien exposé avec les connaissances qu'on a maintenant dans le livre récent d'Étienne de la Vessière, que je vous recommande, un ouvrage absolument fondamental, bourré de références sur l'Asie centrale de 300 à 850. Alors, pour en revenir à Shapur, on sait que, du coup, face à cette pression, il va transporter sa capitale plusieurs années à l'est, à Merv, donc dans l'actuel Turkménistan. Merv est ici, Meshad, Urara, Charjou, Ashgabat, tiens, bizarre, j'ai pas mis Merv. C'est ici, voilà. Il va vraiment, pendant plusieurs années, il va y résider, refortifier la ville, etc. Cet épisode pourrait être commémoré par ce plat qui inaugure en fait une série de plats sassanides de l'Est. C'est-à-dire, il y a deux écoles dans les plats sassanides. On les distingue par la façon dont sont exécutés les drapés. Il y a l'école de la cour, l'école de l'Ouest, qu'on appelle l'école à double ligne segmentée. C'est comme ça qu'est exprimé le drapé. Et puis il y a l'école à drapé couvrant ondulé, voilà, c'est celle-là, plus proche des prototypes classiques, et qui est, semble-t-il, centré sur Merv et les capitales orientales. Alors, il y a un problème avec ce roi. Il y a deux candidats possibles, en fait. Je pense maintenant que c'est Shapur II. Parce que, vous voyez, dans certains cas, il porte effectivement ce type de couronne cornes de bélier. Le bélier étant l'une des incarnations du dieu de la guerre, Vahram, c'est sans doute une couronne qu'il portait au moment des grandes campagnes militaires. Mais il se trouve qu'au même moment, le Kushano-Sassanide vassal de l'Est, probablement par imitation, qui s'appelle Vahram II, a la même couronne. Voilà. Alors, lequel des deux ? Comme à ce moment-là les Kushano-Sassanides ne dominent pas Merv, qu'ils ont dominé brièvement au début du siècle, je pense qu'il s'agit en fait de Shapur II, mais nous allons voir, ça pose ce problème de similitude de couronne, se pose à propos d'un épisode dont nous allons parler maintenant. C'est le siège, la campagne que Shapur II a menée vers l'ouest en 359, campagne qui a été magnifiquement décrite par l'historien Amiens Marcellin, qui était un témoin oculaire, même un participant, il s'est passé des choses il s'est passé des choses à Amida, actuellement Diyarbakir en Turquie. Bon, en gros, cette ville est assiégée par l'armée sassanide, mais il y a un contingent couchant, donc venu des Kouchanos sassanides, qui est là. Et le problème, c'est de savoir, Amiens a vu un roi à couronne de bélier, mais lequel des deux ? Donc, c'est ce texte. Donc le roi, alors là il s'agit vraiment de chat pour deux, joyeux d'avoir réduit les nôtres à une pitoyable captivité et comptant sur de semblables succès, se mit en route et progressant sans hâte, parvint le troisième jour à Amida. Le texte d'Amiens, c'est quelque chose d'absolument magnifique. Au premier éclat de l'aurore, toute l'étendue visible resplendissait d'armes scintillantes et une cavalerie bardée de fer recouvrait plaines et collines. Alors, c'est les fameuses armures de cataphractaires, ces armures couvrantes, y compris pour les chevaux, que portaient les Parthes puis les Sassanides. Le roi, monté sur son cheval et dépassant les autres par sa taille, menait en personne toutes les armées, arborant en guise de diadème une coiffure d'or chatoyante de pierreries qui figurait une tête de bélier. Ah, voilà. Tandis qu'une multitude de hauts dignitaires et une escorte recrutée dans diverses nations rehaussaient son apparition. Bon. Et alors voilà, le problème commence ici. Tous les Perses bloquaient tout le circuit des murs. La partie orientale est chute aux Chionites. Alors, justement, il a amené avec lui non seulement des couchants, des couchanos sassanides, mais certains de ceux qui avaient attaqué les possessions sassanides de l'Est, certains des Chionites, qu'il a réussi à récupérer comme mercenaires. Ou alors un contingent qui a été fourni à l'occasion d'une trêve. C'est là qu'était tombé le jeune homme qui causait notre perte. Ah oui, le jeune prince, fils du roi des Chionites, est tué d'une flèche devant les murs d'Amida. Et son père jure de venger la mort de son fils en anéantissant la ville. Donc la garnison sait qu'elle n'a rien à espérer. Gouvernés par les Kouchanos sassanides, furent affectés au côté sud. Les Albaniens gardaient la zone du nord. Les Albaniens, c'est dans l'actuel Azerbaïdjan. Tandis que les Ségestans, c'est-à-dire les gens du Séistan, hein, sud-est de l'Iran, les plus vaillants guerriers de tous, furent placés face à la porte de l'ouest. Avec eux s'avançaient lentement des files terribles d'éléphants. Un spectacle effroyable et déplaçant tous les autres en horreur, comme nous l'avons souvent rapporté. Les éléphants sont avec les gens du Sistan. C'est normal, les éléphants viennent d'Inde. Et le Sistan se trouve sur la route de l'Inde. Alors, ça se passe très mal parce qu'en fait, le fameux roi qui arbore la couronne avec le bélier va défier les défenseurs sous les remparts et il manque d'être tué d'une flèche. Alors là, bon, c'est terrible puisque non seulement le fils de son allié, le roi des Chionites, a été tué, mais lui-même a failli être tué. Donc, évidemment, pas de quartier, l'armée se débande, etc. Donc, alors, problème, on a le roi sassanide, c'est sûr, on a les couchants, on ne nous dit pas qu'ils sont commandés par le roi, mais c'est pas impossible, et du coup, qui est-ce qu'Amiens Marcellin a vu ? Je pense quand même qu'il s'agit de chat pour deux, mais bon, on peut en discuter. Alors, dès auparavant, chat pour deux avait repris en main tous les territoires de l'Est entre justement Sistan, Hindoukouch et Indus, qui avaient appartenu à l'Empire sassanide auparavant, mais qui s'étaient émancipés. Alors, au nord, les Kouchanos sassanides subsistent comme royauté vassale. J'ai très grossièrement indiqué ici, on ne connaît pas évidemment la délimitation précise des frontières, j'ai indiqué ici sommairement la frontière qu'ils avaient au moment de leur apogée territoriale, et puis, semble-t-il, là où Chapour II les a réduits, c'est-à-dire vraiment uniquement la Bactriane et peut-être le sud de la Sogdiane. Voilà, ils subsistent comme royauté vassale avec un territoire réduit et sans doute un rappel à l'obéissance. Ces campagnes à l'Est, on ne sait pas grand-chose, à part, on les documente par les monnaies, et on s'aperçoit que, dans la séquence des monnaies kushano-sassanides, aussi bien en Bactriane qu'au sud, au Gandhara, dans les territoires indiens, à un certain moment, s'intercalent des monnaies de Chapourdeux. Donc, visiblement, il a repris les choses en main à un moment. Il poussait vers l'Est, il tenait à un contrôle sur les régions indiennes occidentales. Pour quelles raisons ? Donc les régions indiennes occidentales, le Gandhara, plus au nord, et puis la région du Bas-Indus, on sait qu'il y avait une satrapie de l'Inde, et ça correspondait à l'Indus. Alors, pour quelles raisons ? À cette époque, le grand empire indien des Gupta est en déclin. Ça peut être une des raisons. Qu'est-ce qui peut intéresser les Sassanides en Inde ? On peut penser à l'or. L'Inde n'a pas toujours un accès régulier aux ressources en or, mais ça arrive de temps en temps. Soudain, les fleuves se mettent à cracher de l'or, il y a beaucoup d'or qui arrive, et comme je vous l'ai dit, ça a été toujours un problème de l'Iran. L'Iran est pauvre en or. Donc, ils ont toujours essayé de rançonner les Romains contre des rançons payées en or. Ça pourrait être expliqué la poussée vers l'Inde. Et puis, une autre raison purement stratégique, le nerf de la guerre, les éléphants. Et ça, c'est depuis l'époque des successeurs d'Alexandre, la première chose qu'un souverain venu de l'Ouest va demander à des souverains indiens qu'il soumet, ce sont des éléphants. Parce que les éléphants, c'est l'arme invincible. C'est ce qui permet de... C'est la seule arme qui permet de briser les charges de cavalerie. Alors on fait venir non seulement les éléphants, mais évidemment, certainement, le personnel capable de les contrôler. Je vous ai montré dans le cours précédent, sur un relief de Chapour Ier, une évocation probable des conquêtes à l'Est, et on voit arriver, justement, des éléphants et des tigres. Je renvoie au passage Damien, les Séistanais avaient avec eux des files terribles d'éléphants. Voilà, ça c'est le tribut livré par les régions indiennes. Il y a cette campagne qui se termine par le siège d'Amida, mais finalement ça n'a pas débouché sur grand-chose parce que Chapour a dû renoncer à aller plus loin. C'est un peu un coup isolé. Mais 4 ans après, c'est les Romains qui vont essayer de prendre leur revanche, avec Julien l'Apostat, qui fait campagne, qui s'enfonce profondément, pratiquement jusqu'à la capitale Ctésiphon, qui meurt mystérieusement au moment de la retraite, en fait. Les polémistes chrétiens ont dit qu'il avait été tué dans le dos par une lance chrétienne. Parce qu'évidemment, il a rejeté le christianisme, il a essayé de rétablir le paganisme, donc bien fait, il meurt dans sa campagne à l'Est, sans peut-être de la main d'un chrétien. C'est pas sûr du tout. Bon, mais on n'a pas d'autres sources. On va revenir à la mort de Julien, parce qu'il y a une représentation extrêmement intéressante dans un relief sassanide. Donc, à ce moment-là, suite à la défaite de Julien, Chapour II met tout le paquet à l'Est. Et il met tellement le paquet que on transfère à Kaboul un atelier monétaire centrale qui venait de qui veut un atelier monétaire de la région de la capitale. C'est-à-dire que l'atelier le plus productif de l'Empire se retrouve installé à Kaboul. Ça, c'est uniquement les numismates qui nous le disent. Évidemment, on n'a aucun texte qui en parle. Mais eux, ils sont absolument formels là-dessus. On voit très bien qu'en 364, un atelier central a déménagé à Kaboul. Cet atelier émet massivement des monnaies d'or, des monnaies d'argent, des monnaies de cuivre, et on a trouvé un millier de ces monnaies au site de Messaïnak, au sud de Kaboul, qui un grand site bouddhique qui a été fouillé dans les 20, enfin fouillé de manière très très irrégulière dans les 20 dernières années. Et vous voyez, Messaïnak, c'est une montagne de cuivre. Voilà. Et ça intéresse actuellement beaucoup les Chinois. Ça désole un peu les archéologues qui aimeraient revenir. Alors, on entend dire parfois que les Chinois, en fait, vont exploiter tout en tunnel très souterrain et que du coup, les archéologues pourront revenir. On entend dire aussi que finalement, les Chinois ne viennent plus. Parce qu'ils se posent le problème, évidemment, de l'exportation de ce cuivre. En tout cas, la montagne de Messaïnak a fourni le métal de monnaies de cuivre Kushan, Sassanide. Et sur le site de Messaïnak, on voit une prolongation de la présence sassanide. Par exemple, on a une monnaie ici qui représente un souverain avec la couronne de Shapur II, mais ce n'est pas Shapur II. C'est un souverain local. Et ce même souverain est représenté sur un plat qu'on a trouvé à Messaïnak. Donc on voit que, et à ce moment-là, les Sassanides se sont retirés. Donc on voit qu'encore 10 ans après, il y a des traditions artistiques, des traditions également de symbolique politique qui se continuent sur place. Allez, parce qu'on dit que cette monnaie comporte un signe clanique qui serait typique des Kyonites. Donc les Kyonites contrôleraient, qui auraient finalement envahi la zone, contrôleraient des souverains locaux qui émettent des monnaies dans la tradition de Shapur II. Ça, je vais être amené à en parler à mon séminaire, où on va étudier des documents bactriens qui éclairent précisément cette zone et cette époque. Et puis, toujours à Messaïnak, une trouvaille absolument incroyable, ce plat de style inspiré de l'école sassanide dite du drapé ondulé, mais avec une exubérance qu'on ne trouve pas dans les plats sassanides authentiques. C'est le lion qui lève la patte, c'est complètement... les mamelles protubérantes de la lionne, c'est totalement exubérant. On se demande s'il n'y a pas des influences chinoises. Et vous voyez, alors la technique de chasse, le cavalier royal tient un lionceau parce que c'est ce qui va faire sortir les lions de la tanière, notamment la mère. Voilà, et qu'il est en train de pourfendre. Et il se trouve que c'est une imitation, on ne sait pas exactement de quand elle date, d'un plat sassanide authentique des années 420-438, donc un moment où les Sassanides ne contrôlent plus vraiment la région. C'est le roi, c'est le roi Bahram Gur, le Bahram V, qui tue un lion et une lionne. C'est plus sobre comme représentation, vous voyez, avec exactement le même procédé, en agitant un lionceau. Heureusement, c'est impressionné tellement que Firdousi, dans le Livre des Rois, en a parlé, le décrit. Quand le lion aperçut ce féroce dragon, il leva les pattes de devant. Le dragon, c'est évidemment le roi. Il leva les pattes de devant et fit un bond. Il voulut atteindre le cheval au front, mais le chasseur le repoussa du talon. Son glaive atteignit la tête de l'animal, alors la femelle s'enfuit derrière son mâle. Le glaive trancha le lion de haut en bas. on pense, en fait, il se peut que Ferdowsi ait eu devant les yeux un plat de cette série. Le cœur des lions mâles se remplit d'effroi. Arriva un autre lion féroce et rebelle, et sa lionne avec un petit à la mamelle. Le roi le frappa de son poignard au cou, la tête du lion roula au loin d'un seul coup. Voilà. Et ça a été, c'est un plat probablement contemporain de cet exploit de Barlamour, qui était extrêmement fier de ses exploits à la chasse. Et on voit que, sans plus tard, ça reste imité dans ces régions. Alors, je vais maintenant m'attarder quelques temps sur un relief que de l'époque de Chapourgeux, le relief de Tarquibostan I, parce qu'il y en a eu d'autres après. Tarquibostan, c'est un site rupestre en Iran, c'est sur la route de Kermanshah, c'est quand on escalade, Nehraven, Kermanshah, c'est quand on commence à escalader les contreforts du Zagros. On a là un relief qui nous figure une présentation cumulée des succès de Chapour II à l'est comme à l'ouest. Donc à l'apogée de sa puissance, c'est sans doute exécuté. Alors justement, il y a des problèmes sur la date, mais donc, probablement c'est exécuté au lendemain de la victoire sur Julien 363 et du gros transfert militaire vers l'est. Bon, donc j'en propose ici. Ça a été interprété de diverses manières parce que il y a un seul personnage sur lequel tout le monde est d'accord, c'est lui. C'est Mitra, dieu solaire, avec ses rayons. Ça, c'est incontestablement Mitra, qui tient un outil rituel zoroastrien, c'est le balsam, un faisceau de tiges qu'on utilise dans le rituel du sacrifice. Pour les deux autres, ça se discute beaucoup. Alors, je propose ici une interprétation qui est partiellement nouvelle, qui va bientôt paraître dans un colloque sur Mitra qui paraît à Washington. En gros, Michael Schenker, dans son livre que j'ai souvent cité sur l'iconographie zoroastrienne, paru en 2014, est du même avis que moi. Alors, bon, voilà, c'est clairement un relief de victoire, avec un mort, c'est comme les... Ça rappelle évidemment les reliefs de Chapour Ier au siècle précédent. Mais, voilà, qui est qui? Déjà, qui est le mort? On comprend que c'est un Romain, on avait toujours compris que c'était un Romain, bon, mais on a franchi un pas décisif en 1975 avec un article du savant allemand Léo Trumpelmann, Triomphe sur Julien l'Apostat. Il a définitivement montré que le personnage mort était Julien, et que, en fait, ce visage est copié sur les dernières monnaies de Julien, c'est-à-dire celles que les Iraniens ont trouvées dans les poches des prisonniers romains, la dernière solde. Voilà, la couronne, le diadème, voyez, hein, les cheveux assez longs, la barbe, surtout la longue barbe, c'est incontestablement Julien. Bien, mais alors, les autres. Alors, la théorie qui a été dominante pendant longtemps, c'est que il s'agirait de Chapour II, qui a généralement une couronne, mais pas toujours, une couronne à merlon, qui investirait en fait son successeur, qui était son frère, Ardashir II, qui se trouve avoir aussi une couronne en calotte simple. Et ce serait en fait... Il partagerait la gloire de la victoire sur Julien. Alors là, on part dans les hypothèses. Cet Ardashir, frère de Chapour et son futur successeur, était roi d'une principauté en Haute-Mésopotamie, en Adiabène, Et on suppose, ben, comme il était à l'ouest, il a dû aider son frère dans la guerre contre les Romains. Et voilà, donc, en signe de reconnaissance, son frère le proclame, en fait, avec cet anneau qui signale la légitimité, il le proclame comme son successeur. Oui, c'est très joli, mais c'est quand même problématique. Parce que Ardachir II, qui effectivement sur les monnaies a ce genre de couronne, n'a succédé à son frère qu'en 379, quand son frère est mort. Ce relief date probablement de 16 ans plus tôt, la victoire sur Julien. Donc, ça paraît quand même un peu curieux que Chapour ait investi quelqu'un qui va monter sur le trône 16 ans plus tard. Par ailleurs, objection principale, sur tous les reliefs sassanides, le roi des rois est investi par un dieu. Il n'est jamais investi par son prédécesseur. Donc on en vient à l'idée que c'est Chapour II qui est investi, ou du moins peut-être reçoit l'anneau de victoire, parce qu'il n'a plus besoin d'être investi roi, par un dieu. Et ce dieu, ben, c'est Ahura Mazda, Ormazd. Oui, mais qui est qui ? Voilà. Alors d'habitude, on considère que Ormazd est au centre et que lui, c'est Chapour II. Bon, il y a un problème qui a été remarqué. Celui-là qui serait le roi Chapour II est un peu plus haut que les autres. Bon, quand on met quelqu'un un peu plus haut que les autres, ça veut dire qu'il a plus de dignité. Donc, et par ailleurs, grosse objection, il n'a pas d'armes. Comme Mitra. Mitra n'a pas d'armes non plus. Lui n'a pas d'armes. Celui qui a une arme, c'est le roi. Voilà. C'est pas le dieu, c'est le roi. Et là, on voit le pommeau de l'épée. On voit l'épée qui dépasse là. Donc, en principe, lui, ça serait le roi, et lui, ça serait le dieu. Bien. Donc, on aurait le dieu Ahura Mazda qui remet l'anneau de victoire à Chapour II, lequel n'a pas sa couronne habituelle. Mais, bon, peut-être par humilité, il n'allait pas se représenter avec la même couronne que le dieu. En général, sur les autres reliefs sassanides où le roi est investi par Ormazd, il se trouve que la couronne du roi ne peut pas être confondue avec la couronne du dieu. Donc il garde sa couronne. Mais là, comme il se trouve qu'ils ont la même couronne, il y en a un qui doit adopter une couronne plus simple, et c'est évidemment le roi. Et par ailleurs, on a la preuve que, voilà, sur certaines émissions monétaires, effectivement, Chapour II a une couronne en calotte. Bien. Alors, voilà, on avance. Mais il reste un petit problème. Celui-là, bon, évidemment, c'est Mitra. Mais il n'est pas debout sur le Romain vaincu. Il est debout sur une feuille de lotus, sur un bourgeon de lotus. Ça comporte un message, certainement. Il faut trouver une explication. Alors, une savante américaine, Martha Carter, a mis sur la bonne voie. Elle a dit, bon, forcément, c'est une allusion à l'Inde. Et en Inde, le lotus est évidemment un symbole solaire, plus précisément associé à Surya, le dieu du soleil. Et puis, bon, il vous suffit de voir n'importe quelle collection, un musée, n'importe quelle galerie de divinités indiennes. On a très souvent, notamment les déesses, qui sont debout sur un lotus. Donc évidemment, ça veut dire, c'est comme un écriteau qui veut dire « ici on est en Inde ». Bien. Alors, précisément, sur les monnaies Kushano sassanides, on voit que le bourgeon de lotus, c'est très net sur ces monnaies-là, donc se situe en haut de la couronne et remplace en réalité un symbole qu'on a sur les monnaies proprement sassanide, c'est-à-dire ce qu'on, la boule de tissu qu'on appelle le corymbos. C'est une boule de tissu, il devait y avoir une armature en osier, hein, qui symbolise le ciel. Et sur les monnaies kushano-sassanides, c'est remplacé par un symbole emprunté à l'Inde, qui est le lotus. Donc, ceci signifierait une victoire sur l'Inde, puisque, puis, c'est pas par hasard, le lotus occupe la même position que le cadavre du Romain vaincu. Donc évidemment, c'est un indice de victoire. Alors, je pense, mon interprétation, c'est que ce relief exprime une symétrie de situation qui s'est produite à ce moment-là, vers 363. 363, Julien se fait tuer dans sa campagne contre Chapour II. Et l'année d'après, Chapour II transfère l'atelier monétaire et donc probablement des grosses forces militaires à Kaboul. Donc on a ici victoire sur Rome et victoire ou victoire potentielle sur des territoires indo-bactriens. Je pousse encore les choses un peu plus loin. Pourquoi il n'y a pas de cadavre ici? Alors qu'ici il y en a un. Je dirais... La victoire à l'ouest a été assurée par une éclatante victoire militaire. La réaffirmation du pouvoir à l'est, ça a peut-être été plutôt une négociation, un renouveau d'allégeance des princes vassaux. Et ce qui, à mon avis, confirme cette idée, c'est que Mitra, entre plusieurs fonctions, notamment le fait d'être le dieu solaire, est le dieu qui garantit les serments. On dit que c'est le dieu des contrats. Donc, s'il est là, sur ce symbole qui évoque les territoires de l'Est, c'est probablement pour marquer que ces territoires sont revenus à l'obéissance, mais sans doute pas à la suite d'une victoire militaire. On dirait, je m'avance très très loin, mais comme on dit, si on n'essaye rien, on ne trouve rien. Bien. Alors, continuons avec Chapour II, parce que vraiment... il va vivre longtemps. Ça a énervé beaucoup les Romains parce que et on a des Ammien Marcellin reproduit des échanges de courriers avec l'empereur les courriers sont cryptés évidemment. Alors on dit alors Chapour II on l'appelle le roi au long règne. Oui, d'accord. On est en 359. Il lui reste 20 ans à régner. Donc c'était évidemment, ils en avaient assez. Alors, il se trouve quand même que Chapour II, ça c'est pas très bien, ça se termine pas très bien à l'est. À l'ouest, ça va. 363, la paix de Jovien, les Romains ne vont plus attaquer, ils vont attendre la mort de Chapour II. Ils ont compris, la leçon a été suffisamment dure. Mais à l'est, la pression des envahisseurs chionites ne cesse pas, et on a deux témoignages tout à fait remarquables par des gens qui ont participé aux campagnes à l'Est, c'est des Arméniens. Alors je vous ai dit, c'est beaucoup par eux qu'on sait ce qui se passe dans les armées, puisque ils ont été embarqués dans les campagnes de l'Est, précisément à l'époque où leur littérature nationale est en train de naître. Et donc, ça fait que dans les chroniques, on a beaucoup de détails. Alors ici, il s'agit des histoires épiques qu'on appelle... Enfin, parfois, on l'attribue à Fauste de Byzance. Oui, on l'appelle parfois Bouzandarin, le Fauste de Byzance. Mais en fait, c'est une mauvaise lecture. Cet historien s'appelait probablement Paustos Bouzandi, alors c'est connu comme histoire épique, ou alors Bouzandaran, voilà. Une chronique très détaillée, tout à fait remarquable, plutôt plus objective que ce qu'on va avoir par la suite avec cette historiographie arménienne très très marquée par le nationalisme. Comme je l'ai dit la fois d'avant, quand on lit les sources arméniennes sur les campagnes sassanides, les Arméniens gagnent toujours, les Iraniens perdent toujours, sauf quand leur général est arménien. Bon. Alors, voilà ce qui se passe en 367. Quelques années après les grandes victoires de Shapur II. À cette époque, oui, c'est trop petit là, je finis. Hein. À cette époque, Arsace, roi d'Arménie, était encore vivant dans le pays. Arsace, roi d'Arménie, Arshak, roi d'Arménie, a été fait prisonnier. Il se trouve à végéter dans une prison d'État en Perse. Voilà. Mais cette année-là, la guerre éclata entre les Perses et les Arméniens. Voilà, le war between. La guerre s'est calmée. The war between the Persians and the Arméniens. Oui, voilà. Les Perses sont obligés d'arrêter les campagnes contre l'Arménie parce que le roi Arsacide des Couchants, qui réside à Bactre, déclenché une révolte contre Shapur, le roi sassanide. Alors, c'est un peu crypté. Le roi qui réside à Bactre, c'est le roi des Couchants. Mais on l'appelle Arsacide, du nom de la dynastie qui a précédé les Sassanides, parce qu'on les rattachait fictivement. Bon, qui est ce roi qui s'est révolté? Alors, il y a deux hypothèses. Soit c'est déjà les Huns qui sont sur le trône à Kaboul et qui ont pris le titre de leur prédécesseur, soit c'est un Kouchano-Sassanide, mais qui agit maintenant sous la domination des Huns. En tout cas, il se révolte contre les Iraniens. Alors, Shapur mobilise l'armée persane entière, etc. Voilà, il emmène avec lui toute la cavalerie récupérée de l'Arménie. Parmi eux, il y avait un eunuque du roi prisonnier, hein, et cet eunuque, Drastmat. Voilà, donc il y a la guerre. Ça se passe ailleurs. Et finalement, ce Drastmat était présent à la bataille dans laquelle le roi des Couchants a mis en défaite Shapur, roi de Perse, et évidemment Drastmat a accompli toutes sortes d'actions d'éclat, et il a combattu si bravement pour le roi Shapur qui lui a sauvé la vie, et qu'il a tué beaucoup des Couchants, et qu'il a ramené beaucoup de têtes. Donc Shapur est très content de lui, et puis enfin, la suite de l'histoire, c'est qu'il va l'autoriser, parce que l'autre lui a sauvé la vie, il va l'autoriser à aller rendre visite à son roi qui végète prisonnier dans une sinistre prison d'État qui s'appelle la forteresse de l'oubli. Voilà, c'est presque Corto-Maltese, la maison dorée de Samarcande. Donc, cet eunuque va rendre visite à son roi, il essaie de le réconforter, il lui amène un bon repas, il joue du luth, il chante, mais le roi attrape le couteau qui servait à couper le repas et se suicide. Enfin, c'est une histoire incroyable, mais donc ça se passe en 367. Ce qu'on voit, c'est que ça se passe pas bien pour les Sassanides, puisque Shapur II, qui est présent à la bataille, ne s'en sort qu'à cause de l'action d'Exla, de cet Arménien. Rebelote en 375, à nouveau une guerre. Très intéressant, parce que quand on voit le récit, on voit que Shapur II n'est pas présent à la bataille. C'est logique. En 367, il a 58 ans. Il peut encore être à cheval et participer à la bataille. En 375, il a 66 ans. Il approche de la fin de sa vie. Or, on sait, par Firdousi le Shahnameh, que à la fin, Shapur II avait perdu ses capacités. Il était apparemment sénile ou affaibli. Donc, Tout ça, malgré l'habillage épique, nationaliste, etc., ça a quand même, ça sonne assez vrai. Alors là, il y a deux frères de la maison des Mamikoniens qui vont plus tard prendre le trône en Arménie, sont revenus de captivité, et puis finalement, ils sont emmenés, ils sont entraînés à la guerre contre les Kouchans, mais là, c'est terrible, c'est une défaite énorme, il n'y a pas un seul Perse qui reste vivant, personne qui survit même pour rapporter les nouvelles du désastre, mais à part les deux Arméniens qui font toutes sortes d'actions de valeur et qui sont les seuls à survivre et à ramener à la cour de Perse la nouvelle de l'anéantissement de l'armée. Mais alors, du coup, là, il est moins bon joueur. Shapur est moins bon joueur. La fois précédente, il a récompensé celui qui avait sauvé la vie. Mais là, il ne pardonne pas à ceux qui sont venus porter les mauvaises nouvelles. Donc, il les chasse, il les jette dehors, et les autres arrivent finalement péniblement à rentrer en Arménie, et puis là, ils vont fomenter une révolte. Bon, voilà. Donc, on a quand même... Merci au contingent arménien, parce que grâce à eux, on sait quelque chose. Alors, ces années cruciales sont maintenant éclairés par d'autres types de documents, des documents locaux, en bactrien. Il y en a de l'eau. Il y a les archives du petit royaume de Rob, qui se trouve en fait au nord de Bamiyan, ça fait une vingtaine d'années que Nicolas Sims-Williams les publie parce qu'il en ressort toujours des nouveaux. Et puis, une série qui vient d'apparaître, ce qu'on appelle les documents sur écorce de bouleau, qui viennent de la zone, d'une autre zone, le Gandhara, et qui sont dans un état pas idéal, mais heureusement, on a Nicolas Sims-Williams pour remplir les trous. Alors, ces documents-là, je viens de les publier avec lui. C'est ce volume-là. Les contextes de ces documents sont assez différents. Les documents, les archives de Robe, alors les archives, donc les documents sur écorce de bouleau, c'est très focalisé. Hein. C'est une correspondance secrète autour de 380. On se trouve peut-être tout à la fin du règne de Shapur II, peut-être tout au début du règne de son successeur Shapur III. On a des indices qui nous permettent de le situer à ce moment-là. Et par ailleurs, c'est focalisé géographiquement puisque tous les noms de lieux indiqués, ça va de Peshawar au Gandhara et jusqu'à, en fait, Ghazni. Hein. C'est vraiment la zone frontalière actuelle entre l'Afghanistan et le Pakistan. Le contexte, on le voit assez clairement, les Sassanides sont sur la défensive. Ils ont perdu, ça y est maintenant, ils ont perdu complètement la Bactriane. Ils se retrouvent dans le Gandhara, d'où émanent les lettres. Et alors, la correspondance implique plusieurs personnages que nous nous sommes efforcés d'identifier. C'est vraiment, vraiment un défi policier. C'est le dossier sur lequel on a travaillé. On a un représentant personnel du roi Shapur II, c'est assez clair, ou peut-être plutôt de son successeur Shapur III. On a un souverain kouchano-sassanide, qu'est-ce qu'il vient faire là? Surtout qu'il est à Taxila, probablement, tout à fait à l'est. On pense à un épigone, enfin un dernier sur un ultime kouchano-sassanide qu'on a accueilli dans son exil et à qui on a donné une principauté au Gandhara. On a divers subordonnés dont beaucoup portent des noms indiens, donc on voit que cette administration sassanide finissante s'appuie beaucoup sur un personnel indien. Et puis alors on nous parle d'une armée de secours sassanide avec un grand général qui arrive par le Séistan et qui va finir par arriver à Razni qui est là, dont on espère que ça va redresser la situation, mais on n'a pas la suite de l'histoire, et la suite de l'histoire, en fait, elle n'est pas dans les documents, mais on la connaît par les monnaies, c'est qu'ils ne vont plus tenir très longtemps, et que les Kyonites vont déborder et vont finir par tout emporter. Bien. Je ne m'attarde pas sur ces documents, parce que ce sera le sujet de 4 séances du séminaire en juin. En mai, le séminaire va concerner des questions relatives au culte de Mitra, puisque je profite de la venue à Paris de mon collègue Touraj Dariahi, professeur à Los Angeles, qui va donner 4 conférences qui ont été annoncées et dont je conseille fortement de suivre. Pendant qu'il sera à Paris, je fais 4 séances de séminaire avec lui et d'autres sur le culte de Mitra. Et puis mes 4 dernières séances de séminaire en juin, ce sera sur ces dossiers bactriens. Alors oui, donc j'ai parlé du dossier que j'avais, BD4, Bactrian Documents 4, que nous venons de publier avec Sims Williams, mais il y a BD1-3, c'est-à-dire ce qui a précédé, que Sims Williams avait publié seul, c'est les archives du royaume de Robe. Alors là, le contexte est différent parce que le diapason chronologique est beaucoup plus large. Ça va, c'est 4 siècles, du 3e au 8e siècle. Pour la période qui nous occupe, on a des choses qui viennent un peu après donc la défensive sassanide exprimée par ces documents. Là, c'est encore après, les sassanides ont vraiment reflué, mais ils ne renoncent pas à des tentatives de reconquête. On a un contexte que j'appellerais un peu post-colonial. On a le roi Vahram V, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est lui qui chasse le lion en tenant un lionceau à la main. Il a fait des campagnes à l'est, mais apparemment pas vraiment contre les Kyonites qui étaient là, qui occupaient la Bactriane, c'est plutôt contre des menaces qui étaient immédiatement au nord. C'est le peuple des Tchöl, voilà, qui occupe la steppe, qui plus tard on va appeler la steppe des Oghouz. Et c'est probablement surtout contre eux que va être construit quelque chose dont je vais parler dans les derniers cours, le grand mur de défense, dit mur de Gorgan. Voilà. Alors, il se trouve que on a quelques détails. On sait que le frère de Bahram V a été envoyé au Khorezm, vraiment loin, pour fonder une ville sur la rive gauche. Et on n'a pas de détails. Moi, je suppose que c'est la ville plus tard connue comme Gurganj aujourd'hui, qui ferait référence à la région du Gorgan, qui est ici, qui existe, qui est toujours une province de l'Iran. Et ça pourrait indiquer, peut-être, que cette colonie militaire a été peuplée par des gens qu'on a amenés du Gurgan. Mais je suis le seul, pour le moment, je crois, à avoir eu l'idée. Donc ce n'est pas forcément une garantie. Bon. Alors, ces combats de l'époque de Bahram V, on a peut-être, même probablement une illustration, dans un site tout à fait extraordinaire, Bandian, qui commence à être bien connu, une propriété aristocratique dans un secteur frontalier, où on a un sanctuaire domestique avec des reliefs magnifiques, malheureusement très mal conservés, sur stuc, qui montrent des combats. Voilà une tête de vaincu. Alors, c'est pas vraiment les têtes qu'auront plus tard les Eftalites. Ça pourrait peut-être être ce peuple des Tchöl contre lequel s'est battu Bahram V, parce qu'apparemment, les inscriptions, difficiles à interpréter, seraient de cette époque. Le fils de Bahram V, Yazdir II, 438-454, va continuer. Alors lui, il va vraiment essayer il va faire des campagnes carrément à l'est, mais plutôt défensives. Alors à ce moment-là, on a parmi les anciens envahisseurs huns, émerge une dynastie qu'on appelle les Kidarites. Mais alors, vous voyez, c'est toujours typique de ces sources, ça c'est une source arménienne, ouais. C'est toujours anachronique. C'est-à-dire que quand on continue à appeler ces gens-là les couchants, alors que ce n'est plus les couchants. De même que plus tard, quand il s'agira des Eftalites, les sources arabes vont dire les Turcs. Mais il n'y a pas encore de Turcs. Mais c'est une façon, c'est une projection anachronique. Alors, le brave Yazdgir, en 449, essaie d'attaquer. Alors, typiquement, le roi des couchants, qui en fait n'est plus un couchant, incapable de l'affronter en bataille, se retira dans des régions désertiques imprenables. Tactique typique des royaumes nomades. On se cache, on simule la fuite. Le roi des Perses attaqua ses provinces et ses pays, prit beaucoup de forteresses et de villes. Donc ça ne se passe pas dans la steppe, ça se passe en Bactriane. Amassa des captifs et du butin, bon ça se passe bien. Mais alors, 53-54, il recommence. Il ordonne aux prisonniers arméniens, prêtres et nobles, de se joindre à la marche depuis Gourgan. Curieusement, on retrouve Gourgan, qui est le grand centre de concentration des troupes quand elles partent à l'est. Il les ordonna de les tenir dans la forteresse de Nishapur. Quand le roi fut arrivé sur la frontière de l'ennemi, il fut complètement vaincu et repartit couvert de honte, ayant perdu l'élite de son armée. Bon. Car l'ennemi n'avait pas attaqué les Perses en opposant des lignes de front, mais par surprise, en tombant sur chaque aile, passant beaucoup au fil de l'épée, puis disparaissant indemne. En employant cette tactique pendant de nombreux jours, ils épuisèrent l'armée perse. Typique des tactiques de harcèlement des populations nomades attaquées par un empire sédentaire. Alors, Yazdgird, qui est furieux, évidemment, il trouve des boucs émissaires, ces deux malheureux prêtres arméniens qui sont martyrisés dans la province de Badris, c'est-à-dire au nord-est de Hérat. Là, on a une source byzantine qui raconte à peu près la même histoire. On nous parle des Kidarites qui recevaient un tribut, et puis le nouveau roi Péros veut plus. Voilà, Yazdgird doit refuser le paiement, le fils Aïri, voilà, etc., etc. C'est donc, on voit ce qu'on voit dans ces textes, c'est que les Sassanides n'ont pas renoncé, mais ils ne font plus le poids. Ils ne font plus le poids. Et on va voir au cours suivant que sous le règne suivant, le règne de Péroz, alors là, c'est carrément la catastrophe, le désastre total. Donc là, on est vraiment dans un contexte de reflux. Les Sassanides n'ont plus les moyens de résister à ces forces, à ces constructions politico-militaires qui sont en train de surgir à l'Est. Je vous remercie et je vous dis la prochaine fois, probablement en Fialvax. Mais là, vous vérifierez sur le site.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.